Chapitre 28. Cassette numéro 7. Suite de l'enregistrement Blanche. Combien de temps Blanche et Colette ont-elles vécu l'une près de l'autre? Au début de notre relation avec Pierre, nous dormions chez Colette. Ensuite, nous sommes allés à l'hôtel pour ne pas la déranger, alors que nous ne la dérangions pas. Au contraire, j'imagine qu'elle devait se faire une joie de nous avoir entre ses murs. Mais elle ne laissait jamais rien paraître. La vérité, c'est que nous cherchions le confort et fuyions le lit étroit de ma chambre d'adolescente. Quand nous sommes partis aux États-Unis, Pierre avait proposé de lui acheter un billet d'avion pour qu'elle nous rende visite. Elle a toujours refusé. Il lui a même proposé d'en prendre deux. Un pour elle, un pour Louis, pour ne pas qu'elle voyage seule. Elle n'a jamais accepté à cause de sa cordonnerie.
Vous pouvez pas la fermer ?
Oh, ça non alors !
Faites-vous remplacer.
Par qui ? Par un cordonnier, Colette !
Je me souviens d'une de ces réponses extraordinaires qui avait amusé Pierre.
Je ne fais pas le même métier que vous, Pierre. Vous pouvez être remplacé par un autre acteur. Moi, c'est impossible.
La deuxième fois que je suis venue à l'école Pasteur de Guignon, on était en septième. L'école, c'est obligatoire et mon géniteur avait peur des ennuis. Sinon, il se serait bien moqué que j'y aille. Dès qu'on a passé le panneau Guignon, j'ai pensé « C'est ici qu'il y a la fille qui me ressemble, celle avec les yeux doux. » J'ai espéré te revoir, Colette. Ça faisait 3 ans. Et tu étais là, assise au milieu de la classe, comme une sœur qui m'attendait dans des vêtements trop grands. Tu as souri quand tu m'as vue, tu te souviens ? Je restais avec toi à l'heure du déjeuner. J'adorais rester avec toi. On passait des heures à parler, assises sur le même banc. Comme tes poches étaient vides, les miennes étaient pleines de pommes pour toi, et mon cartable rempli de pain et d'œufs durs qu'on dévorait. Tu posais des tas de questions sur mes acrobaties, sur le regard des spectateurs, si j'avais peur de tomber, à quel âge j'avais appris à faire des roulades, le grand écart ou à jongler. Tu imaginais mes costumes et mon maquillage. Je te donnais l'impression d'être une princesse à paillettes. Oui. Et moi, j'avais jamais vu de princesse en vrai.
J'interromps la bande magnétique pour faire bouillir de l'eau. J'ouvre le placard et trouve 2 petits paquets de la tisane de Colette. Nuit tranquille. Ces morceaux de sucre, ces filtres à café et ces 2 mugs, dont l'un est fêlé. Je l'imagine vivant ici. Recluse, séparée de Blanche. Quelle tristesse et quelle effroyable solitude. À quoi pensait-elle ? À nous aux États-Unis ? À Pierre qui l'appelait en douce avant sa supposée mort ? Au match de Ligue 3 ? Aux joueurs ? Louis lui apportait-il le journal chaque jour ? Il doit être à présent 1 ou 2 heures du matin et Anna dort certainement sur son île. Pierre a retrouvé l'autre dans leur lit après avoir raccroché. Je n'ai plus réussi à prononcer un seul mot une fois qu'il m'a avoué avoir appelé Colette derrière mon dos. Abasourdie, stupéfaite, en colère, intriguée. J'hésite. Que pouvait se raconter un acteur vivant en Californie et une cordonnière œuvrant à Guignon ? Je retourne vers le magnétophone, ma tasse à la main, et l'enclenche. De nouveau, les voix de Colette et Blanche résonnent entre les murs. Je les entends pouffer en même temps. Ce qui est troublant, c'est qu'elles ont la même manière d'avaler leur joie. Leurs rires sont presque muets. Je les imagine côte à côte, face au magnétophone. La même silhouette, le même visage.
La princesse d'un royaume où le roi était un ogre. C'est pour cette raison que je te tenais à l'écart du chapiteau. Jusqu'au jour où... Raconte. La 2e semaine, 4 jours avant votre départ, tu m'as dit « Colette, je vais te montrer ma famille. Je te préviens, elle est bizarre, elle peut faire peur. Mais personne n'est méchant, au contraire. Le plus important, c'est que mon géniteur te voit jamais. Il est parti pour la journée. Je ne voulais pas qu'il te découvre. Il aurait été capable de t'arracher à tes parents pour nous exhiber toutes les deux. 2 phénomènes de foire qui se ressemblent sans lien de parenté. Si j'avais pas eu Jean, je serais partie avec toi. En arrivant sur la place, on a croisé Nestor, un géant avec un beau sourire. Ses mains étaient grandes comme des raquettes. « Je te présente mon amie Colette. » Il a répondu, « On dirait ta sœur. »« Oui, je sais, mais c'est pas ma sœur. » »« Et tu dis pas à Soudoro que tu nous as vus. » Il a plaisanté, « Moi, je vois rien, je suis trop haut. » Je t'ai demandé qui était Soudoro. Tu as chuchoté dans mon oreille, « Mon géniteur. » Je ne l'aurais pas laissé t'emporter. Ceux qui l'ont suivi ont trop souffert. Je t'ai demandé où tu habitais. Tu as poussé la porte d'une caravane. Il y avait un grand lit défait, un coin avec une cafetière, de la vaisselle et un placard. Il y avait aussi une immense affiche avec un lion dessus. Elle prenait tout l'espace. En montrant le lit, tu as dit « Ici, c'est chez nous. » Et puis tu as sorti 3 balles de couleur de ta poche et tu as commencé à jongler. Ça m'a envoûtée. Mais le plus extraordinaire, c'est quand tu m'as montré tes costumes. Un justaucorps bleu avec une jupe en tulle et des manches en dentelle, le même en blanc, et une robe rose à paillettes. Des collants, des chaussures qui brillaient et une veste à sequins. Que je t'ai enviée. On aurait dit des habits de poupée, comme ceux de la vitrine des galeries modernes rue Jean Jaurès. Tu as enfilé des chaussons bizarres et tu m'as emmené sous le chapiteau. Un immense cercle jaune forsythia et rouge coquelicot. Tu as grimpé à une échelle avec la souplesse d'un chat et tu as commencé à marcher sur ton fil. J'ai eu peur que tu tombes. J'avais jamais vu d'acrobate en vrai. Les autres filles de mon âge n'étaient pas gentilles, mais toi, tu étais unique, avec une vie unique. Je pense qu'à ce moment-là, je t'aimais déjà. Tu étais mon reflet qui vivait une autre vie que la mienne. Et puis tu souriais tout le temps, alors que tes yeux racontaient le contraire. Ils étaient graves. Je t'ai regardé en équilibre sur ton fil. Une fille funambule. Une fille oiseau. J'avais jamais rien vu d'aussi beau que toi, à part Jean. Ensuite, tu es redescendu en glissant. Et tu m'as demandé lequel de mes costumes je voulais. Au début, j'ai pas compris. Tu as insisté. Choisis-en un, je te le donne. Nous faisons la même taille. Tu as pris le justaucorps bleu. Je sais que tu rêvais de choisir la robe de ballet rose, mais tu n'as pas osé. Je l'ai vu dans tes yeux. Mes costumes étaient usés, rapiécés et encore rapiécés. Ils faisaient de l'effet, mais le tissu n'était pas de bonne qualité. Toi, tu les as regardés comme des trésors. Jusqu'à mes 14 ans, j'ai dormi avec, pour te garder un peu. Après ton départ, tu m'as envoyé 2 cartes postales à l'adresse que je t'avais donnée, celle de Blaise. Et puis plus rien. Personne sait que je portais le justaucorps bleu sous mes vêtements quand je suis arrivée chez Mokhtar. Un jour, Agnès est tombée dessus. Petite, elle fouillait dans mes tiroirs en espérant découvrir je ne sais quoi. Elle était toujours déçue. Sauf le jour où elle l'a trouvé, emballé dans du papier de soie. Je lui ai donné.
Elle coupe l'enregistrement. Et moi, je l'interromps. Je me souviens avoir porté cette tenue. C'est un souvenir lointain. Je croyais que c'était une robe de fée et qu'elle s'était retrouvée chez Colette par magie. Que jamais elle n'avait pu lui appartenir. Elle est restée longtemps dans ma malle à déguisement.
En ressortant de la caravane, tu as croisé Fabrizio qui tenait Noé par la main. Un homme de petite taille et un singe siamois. Ta vie, c'était comme un conte. Une fable à 2 branches, l'une très belle, l'autre très sombre. Après la mort de la lionne, nous sommes restés dans le sud de la France. Mon père voulait acheter un nouveau fauve. Une vieille carne au rabais, il disait. Il passait de zoo clandestin en cirque itinérant. Mais il n'a pas réussi à faire affaire. Jusqu'au jour où il a fini par découvrir l'existence d'un singe siamois baptisé Noé. Tu imagines? Il a secoué un sachet d'argent sous le nez du propriétaire et nous l'avons embarqué. Mais je l'ai déjà dit, les animaux, c'était rien qu'une vitrine. Partout où nous allions, mon géniteur cherchait de la chair fraîche. Il déambulait dans les hôpitaux ou les asiles pour dénicher des gens souffrant de pathologies rares, congénitales ou génétiques. Des humains défigurés qu'il pourrait exhiber et qui lui rapporteraient de l'argent. Et dès qu'il les avait usés, il les jetait sur le bord de la route. Un jour de 1959, sous prétexte qu'elle était vieille et qu'elle n'intéressait plus personne, « Tu te déplumes, ma vieille !» il a renvoyé Natalia, sa femme à barbe. Je l'aimais comme ma mère, et il était jaloux de l'amour que je lui portais. J'ignore où et quand il s'en est débarrassé derrière notre dos à tous. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de l'être le plus doux que j'ai connu dans mon enfance.
J'entends Colette se lever, sortir de la pièce, puis revenir près de Blanche qui reprend la parole. Je me demande ce qu'elle est allée faire, ou chercher.
Je parle uniquement pour qu'Agnès sache que ça a vraiment existé. Il était interdit d'exhiber les bêtes de foire. Les zoos humains avaient été bannis avant la guerre, mais Soudoro connaissait la curiosité morbide de ses congénères. Il cachait ces monstres derrière de lourds rideaux et faisait payer sous le manteau celui ou celle qui voulait voir l'effroyable de ses yeux. Je n'exagère pas. Ils étaient enfermés dans une caravane isolée où personne n'avait le droit d'entrer. Je me souviens des seringues dans la poubelle. Je pense qu'ils les bourraient de calmants. Mais dès que la police avait vent de ces pratiques, nous levions le camp. Avant de reprendre le chemin de l'école, on est passé par un stand qui était fermé. Tu as soulevé un socle et tu as chipé deux sucres d'orge en souriant malicieusement. Je n'avais jamais vu ni mangé avant. Tu l'as gardé pour ton frère?
Je les imagine se regarder et se sourire.
En remontant la rue vers l'école, je t'ai demandé « Elle est où ta mère ?» Et tu m'as répondu « Ma mère, elle est bien là où elle est. » J'ai insisté « Elle ne vit pas avec vous. » Tu as ressorti tes trois balles de couleur et tu as recommencé à jongler. Une des balles est tombée et a rebondi sur le trottoir. J'ai couru pour la rattraper. Elle était douce, on aurait dit du velours. Elle s'est emplafonnée. Elle est trapéziste? Mais non, le plafond c'est le ciel. Elle est morte. J'étais l'enfant d'un fantôme. Je ne possédais rien d'elle. Juste cette phrase prononcée par Soudoro le jour de mes 4 ans. « Elle est morte dans un accident. Me rappelle plus où elle est enterrée, m'en parle plus jamais. »